Radio Kapi. Oh, Kapi. Blaise Sindali Kambala pour le journal.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Ebola à Ituri, le gouvernement congolais veut intensifier la riposte. En mission à Bunia, la première ministre Judith Suminwa réaffirme le soutien de l'État aux équipes engagées sur le terrain. Nous irons ensuite au parc national de Virunga, au Nord Kivu, où un nouvel heureux événement vient renforcer les efforts de conservation des gorilles de montagne. Un bébé gorille mâle est né au sein de la famille Umba et est porté par sa mère Bonané. Les détails dans un instant. Avec ses vastes ressources naturelles et son exceptionnelle biodiversité, la République démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la transition écologique mondiale. Mais quelle diplomatie climatique le pays peut-il déployer pour contribuer efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique? Pour répondre à cette question, nous recevons Claude Bayo-Itaka, docteur en relations internationales à l'Université de Kinshasa et expert en diplomatie climatique. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Face à la recrudescence de l'épidémie d'Ebola en Ituri, le gouvernement congolais veut intensifier sa riposte. En déplacement à Bunia depuis jeudi soir, la première ministre Judith Suminwa a réaffirmé la détermination de l'exécutif à soutenir les équipes engagées sur le terrain et à renforcer les mesures de lutte contre la maladie. Reportage de Jean-Claude Lokidile avec la voix de Richard Junior Kamunga.
Avant son arrivée à Bunia, la chef du gouvernement s'est rendue à Kisangani pour évaluer les dispositifs mis en place face à l'épidémie. Si elle salue les efforts déjà consentis, elle estime qu'il reste nécessaire de renforcer les équipements, intensifier la sensibilisation des communautés et de consolider les dispositifs d'enterrement dignes et sécurisés. Judith Suminwa.
J'étais à Kisangani. Étant donné sa position stratégique, économiquement et d'un point de vue transport, c'est vraiment la voie de sortie de l'Est vers l'ensemble du pays et particulièrement du Kinshasa. Il était important de voir ce qui se passe là-bas et comment la riposte est prise en charge. Ici, en Ituri et précisément à Bunia, nous voulons faire aussi le même constat, soutenir la population, montrer que le gouvernement est avec vous, le chef de l'État, président de la Task Force Ebola à Kinshasa, où nous prenons les décisions importantes pour la manière dont les choses sont prises en charge. Vous savez, le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour la lutte dans le cadre de la riposte Ebola. Et il est question ici de maintenant de voir comment les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et assurer vraiment que nous arrivons à endiguer cette maladie.
Cette mission à Bunia s'inscrit dans une série de visites de terrain destinées à évaluer les besoins, adapter les interventions et accélérer les efforts pour contenir l'épidémie.
Restons à Ituri. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, 109 décès maternels pourtant évitables ont été enregistrés dans la province. L'alerte a été lancée par le représentant résident de l'UNFPA en RDC, Alain Akbadi, à l'issue de son entretien mercredi avec le gouverneur provincial. En visite à Bunia, il a souligné les répercussions de l'épidémie sur les services de santé essentiels, notamment la prise en charge des femmes enceintes et l'accès à des accouchements assistés par du personnel qualifié. Les précisions de Jean-Claude Lokidile.
L'UNFPA relève une baisse importante des accouchements assistés par du personnel qualifié, notamment des sages-femmes. Une situation qui s'explique, entre autres, par la mobilisation de nombreux agents de santé dans la riposte contre Ebola, mais aussi par les inquiétudes liées à leur propre protection face au virus. Face à cette situation, l'UNFPA annonce le renforcement de son appui aux autorités sanitaires. Alain Ikbadi, représentant résident de l'UNFPA.
Comme vous le savez, il y a eu vraiment des inquiétudes aussi par rapport à cette des prestataires qui sont inquiets par rapport à leur protection pour continuer à assister les populations. Le NPA, nous sommes très très concentrés sur cette question, et surtout le déploiement massif des sages-femmes. Donc j'ai eu à rassurer son excellence que, en collaboration avec tous nos partenaires, nous voulons compter sur lui justement pour que ça soit opérationnel. Nous pouvons augmenter le déploiement des sages-femmes pour que vraiment la continuité des services que j'ai mentionnés plus tôt puisse être assurée.
Cette agence onusienne prévoit aussi de renforcer l'accompagnement des structures sanitaires, notamment à travers la fourniture d'équipements, la formation des acteurs et la mise en place des mécanismes pérennes permettant d'assurer la continuité des services essentiels. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Capi.
Au Nord Kivu, une nouvelle naissance vient de renforcer les espoirs de conservation des gorilles de montagne dans le parc national de Virunga. Un bébé gorille mâle a été observé le 22 juillet dans le secteur de Mikeno en territoire de Rutshuru. Il est porté par Bonané, une femelle de la famille Umba qui compte désormais 21 membres. Cette naissance est la 11e enregistrée depuis le début de l'année 2026 dans le parc, un signe encourageant pour la préservation de cette espèce menacée. Le point avec Bernard Nyangi.
Cette observation intervient une dizaine de jours après la naissance d'un autre bébé gorille. Au sein de la famille Bagheni, qui rassemble aujourd'hui 60 individus et demeure le plus grand groupe de gorilles et de montagne habitué à la présence humaine dans le parc. Selon le parc de Virunga, Bonané enregistre sa première naissance depuis son intégration récente à la famille Umba. Parmi les 11 naissances recensées cette année, figurent également deux rares cas de jumeaux observés entre janvier et mars dans le groupe Bagheni et Baraka. Malgré le contexte sécuritaire difficile dans le secteur de Mikeno, le suivi de gorilles est assuré par les pisteurs locaux avec l'appui des partenaires techniques et financiers dont l'Union européenne et l'UNESCO. Le parc souligne que cette évolution confirme la croissance progressive de la population de gorilles et de montagne dans le massif de Virunga, partagé entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Selon les dernières estimations disponibles, ce massif abritait 1063 individus entre 2018 et 2021, dont environ 350 au parc national de Virunga.
Cap sur le Haut-Katanga où s'ouvre ce jeudi à Lubumbashi la première édition de la conférence sur les hydrocarbures en RDC, placée sous le thème « Le pétrole, colonne vertébrale de l'économie de la RDC ». Cette rencontre est organisée par la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Haut-Katanga. Elle réunit les principaux acteurs du secteur des hydrocarbures, des opérateurs miniers ainsi que les responsables de la DGDA. Objectif, réfléchir aux moyens de faire des hydrocarbures non seulement un secteur d'approvisionnement stratégique, mais aussi un véritable moteur de développement économique pour le pays. Le point avec Paulin Munanga.
Les échanges portent notamment sur le cadre légal et réglementaire ainsi que les exigences de la profession pétrolière. Il y a la DGDA qui a expliqué la procédure de dédouanement des produits pétroliers et les défis. Au cours de cette activité, les participants discutent aussi de la structure des prix des produits pétroliers, des défis, des contraintes ainsi que des perspectives de la chaîne des valeurs pétrolières, notamment dans la zone sud. Dans le cadre de la lutte contre la fraude dans ces secteurs, le gouvernement a engagé la réforme forme des marquages moléculaires des produits pétroliers qui permet de garantir la traçabilité. Cependant, la fraude persiste dans ces secteurs, comme l'indique le directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Albert Kasongo.
Grâce au dispositif mis en place par la Direction générale des douanes et accises, DGDA et MAMO, ces produits pétroliers mis à la consommation étaient destinés en moyenne mensuelle à hauteur de 80% au secteur minier et de 20% au secteur domestique. Or, au cours de ce mois dernier, cette tendance positive s'est inversée, traduisant une recrudescence de la fraude dans ce secteur.
Cette conférence sur les hydrocarbures va se clôturer ce vendredi. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
À Mbandaka, la coalition Le Congo n'est pas à vendre, SNPAV, a présenté mercredi une étude qui met en évidence d'importantes disparités salariales au sein de la fonction publique congolaise. Le rapport souligne des écarts de rémunération particulièrement marqués entre les élus nationaux et les agents des services publics essentiels. Des constats qui relancent les débats sur la justice sociale, l'équité salariale et la nécessité des réformes dans la gouvernance publique. Les détails avec Asken Zigbatayoro.
C'est au cours d'une tribune d'expression populaire organisée dans la salle de l'Institut supérieur pédagogique ISP de Mbandaka que les résultats de cette étude ont été présentés. Devant une assistance composée de journalistes, de syndicalistes, d'acteurs de la société civile, d'enseignants, d'étudiants et de fonctionnaires de l'État, le coordonnateur de l'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, Peter Gbiakoumbala, a exposé les principales conclusions de l'enquête menée par la coalition Congo n'est pas à vendre. Selon ses rapports, les députés nationaux percevraient près de 21 000 dollars américains par mois en tenant compte de leurs émoluments, primes, indemnités de vacances, réserves parlementaires et autres avantages connexes. À l'inverse, les enseignants, les professionnels de la santé ainsi que la majorité des agents de l'État disposeraient d'une rémunération moyenne d'environ 150 $ par mois. L'étude met ainsi en évidence des écarts particulièrement marqués. D'après ses auteurs, un député national gagnerait 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et plus de 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Pour la coalition, le Congo n'est pas à vendre. Ces déséquilibres contribuent à creuser davantage les inégalités sociales et remettent en question les engagements des autorités visant à réduire les traits de vie des institutions publiques.
12 ans après leur condamnation, plusieurs officiers et personnalités impliquées dans le procès de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala restent détenus sans avoir eu la possibilité d'interjeter appel. C'est la dénonciation faite par l'association africaine des droits de l'homme, l'AZADO, jugée en 2014 par l'ancienne cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, qui siégeait en premier et dernier ressort. Ces condamnés purgent toujours leur peine dans le prison de Makala Ndolo à Kinshasa ainsi qu'à Angenga dans la province de la Mongala. L'AZADO demande aujourd'hui leur libération et l'annulation des décisions rendues par cette juridiction désormais dissoute. Fin de notre bulletin d'information.
Le 17 novembre 2014, plusieurs personnes, dont le lieutenant-colonel de FRDC, Biro Chonzanzu Kosi, sont condamnées à Beni, au Nord Kivu, par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, qui statue alors en premier et dernier ressort. Elles sont reconnues coupables de participation à un mouvement insurrectionnel et de terrorisme dans le cadre du procès sur l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Près de 12 ans plus tard, l'AZADO dénonce une décision qu'elle estime injuste et réclame la libération des condamnés, son président, maître Jean-Claude Katende.
Il y a une injustice. La Constitution prévoit que toute personne condamnée ait la voie de recours. Si le premier juge n'a pas fait son travail de manière satisfaisante, la partie a la possibilité de s'adresser à un autre juge. Et c'est ce que nous réclamons. Aujourd'hui, cette affaire concerne Monsieur Birocho, mais ça peut être vous demain.
Condamné par une juridiction qui statuait en premier et dernier ressort, ces détenus ne disposaient pas d'une voie d'appel classique. Selon des sources judiciaires, leur libération pourrait notamment passer par une grâce présidentielle ou une éventuelle révision du procès. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Comment faire respecter les droits internationaux humanitaires dans un contexte marqué par l'évolution des conflits armés et l'émergence de nouveaux défis sécuritaires? C'est autour de cette question que la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, en République démocratique du Congo, a organisé ce jeudi à Kinshasa une conférence réunissant experts, universitaires, responsables militaires et acteurs de la société civile. Une rencontre consacrée à la réflexion sur les moyens de mieux protéger les populations civiles et de renforcer le respect des règles humanitaires en temps de conflit. Reportage de Daniela Awa-Izuba.
Au cours de cette rencontre, les participants ont analysé les mutations des guerres contemporaines et leurs conséquences sur la protection de populations civiles. Pour François Moréon, chef de la délégation régionale du CICR en RDC, cette conférence constitue un cadre de réflexion essentiel pour renforcer le respect des règles humanitaires et adapter les mécanismes de protection aux réalités actuelles de conflits.
À quel point finalement ce droit est incontournable, est une nécessité pour protéger les populations victimes de ces conflits armés.
Sur le plan opérationnel et juridique, les forces armées jouent un rôle déterminant dans l'application du droit international humanitaire. Le général Tchaïkolo Jean-Paulin, conseiller à la haute cour militaire, a pour sa part insisté sur la responsabilité de la chaîne de commandement dans le respect de règles de conduite en période de conflit.
Les audiences des juridictions militaires ont un caractère pédagogique. Lorsqu'on juge un militaire, eh bien, à travers ce jugement, ce sont les autres militaires qui sont éduqués.
À travers cette initiative, le Comité international de la Croix-Rouge entend promouvoir un dialogue permanent entre le monde académique, la société civile et les acteurs militaires. L'objectif est de renforcer la protection de populations affectées par le conflit armé et de favoriser une meilleure appropriation des principes du droit international humanitaire.
Restons dans la capitale, la réforme constitutionnelle, la consolidation de la paix et la promotion des droits humains ont été au centre d'une conférence débat organisée ce jeudi à Kinshasa par l'Association nationale des victimes du Congo. Cette rencontre a réuni des défenseurs des droits humains, des acteurs de la société civile et plusieurs participants venus échanger sur la place des victimes de guerre dans le processus des réformes constitutionnelles en RDC. Les détails avec Joyce Masanka.
Comment intégrer davantage les préoccupations des victimes de guerre dans le processus des réformes constitutionnelles en RDC? C'est autour de cette question que se sont articulés les échanges lors de cette conférence débat. La première communication a été assurée par Merla Moulumba sur les thèmes réforme constitutionnelle et consolidation de la paix.
Les droits de l'homme devront la finalité de toute constitution. La constitution du 18 février 2006 n'a de sens que si elle protège effectivement la personne humaine.
La seconde communication a été présentée par Paul Sampo, président de la Commission nationale des droits de l'homme.
La République démocratique du Congo, comme vous le savez, traverse depuis plusieurs décennies une succession de crises politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires qui ont profondément affecté les crises sociales de notre nation.
Issus des travaux, les participants ont salué l'initiative de l'Association nationale de victimes du Congo, tout en accordant une attention particulière aux victimes de guerre, à la consolidation de la paix et à la promotion des droits humains.
Actualité internationale.
À une semaine de l'ouverture officielle du processus de désignation du prochain secrétaire général des Nations Unies, les 6 candidats ont présenté jeudi 23 juillet leur vision devant l'Assemblée générale à New York. Seul Africain en lice, l'ancien président sénégalais Macky Sall a défendu son expérience et son projet de réforme de l'organisation. Antonio Guterres quittera ses fonctions le 1er janvier 2027 au terme de 2 mandats.
L'invité.
Face aux défis croissants liés au changement climatique, la République démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle majeur sur la scène internationale grâce à ses vastes ressources naturelles et à son exceptionnelle biodiversité. Mais quelle diplomatie climatique le pays peut-il développer pour contribuer efficacement à la lutte contre le réchauffement de la planète ? Pour en parler, nous recevons Claude Bayo Itaka, docteur en relations internationales à l'Université de Kinshasa et expert en diplomatie climatique. Entretien réalisé par Joël Ouéti.
Monsieur Claude, bonjour.
Bonjour, monsieur Joël.
La diplomatie climatique, en quoi se distingue-t-elle de la diplomatie environnementale traditionnelle?
Alors, la diplomatie climatique, c'est une des approches, un élément sectoriel de la diplomatie environnementale, parce que comme vous le savez, l'environnemental est beaucoup plus global. Alors, le changement climatique, c'est un des aspects de l'environnement. Et la diplomatie climatique, c'est vraiment un des axes principaux actuellement de la diplomatie environnementale, qui est née depuis les années 90, après l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en passant par les protocoles de Kyoto jusqu'à l'accord de Paris, jusqu'à aujourd'hui, c'est en fait ensemble de ces mécanismes à la fois diplomatiques, juridiques, institutionnels qui sont mis en place au niveau international pour aider les pays à régler la crise climatique.
Dans quelle mesure la diplomatie climatique peut-elle être considérée comme un instrument de puissance pour la République démocratique du Congo?
La transition énergétique combinée avec la révolution numérique constitue aujourd'hui parmi des mécanismes qui vont révolutionner les systèmes économiques mais aussi les systèmes géopolitiques mondiaux. Les États qui disposent des capacités technologiques, ce sont ces États-là qui seront considérés comme des vainqueurs de cette révolution. Il faudrait qu'on ait ces capacités de démonstration, et ça c'est à travers la science, il faudrait qu'on ait ces capacités technologiques d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme ressources naturelles, nous avons les forêts, les ressources en eau, les tourbières, nous avons tout ça. Mais aujourd'hui, si les changements climatiques continuent à s'accélérer comme les tendances les démontrent, toutes ces ressources naturelles ne seront pas résistées. Et du coup, il faudrait qu'on développe nous-mêmes nos capacités de résilience. Notre politique climatique reste de plus en plus dépendante des appuis extérieurs. Alors, cela représente une faiblesse. Il faudrait vraiment que les décideurs essayent d'analyser comment doter notre pays d'une politique d'autonomie stratégique qui va l'aider en fait à mieux assurer les financements internationaux.
Pouvez-vous nous dire l'action publique congolaise est-elle suffisamment cohérente avec les engagements internationaux en matière de climat?
Nous avons une action publique qui est beaucoup plus adaptée, mais qui n'est pas suffisante, qui nécessite un investissement institutionnel puis stratégique pour aider notre pays à mieux capitaliser les opportunités qui nous sont offertes par cette transition. Et cela nécessite que le pays dispose à la fois des compétences.
Quelle politique publique devait être prioritaire pour renforcer le leadership climatique de la RDC? Quels sont les risques que la RDC court lorsqu'il ne renforce pas sa stratégie de diplomatie?
Le changement climatique, c'est un domaine transversal. C'est une question qui touche presque tous les secteurs. On devrait plus considérer le changement climatique comme un domaine environnemental, écologique, pour les mettre au centre de notre processus de planification. Et en réalité, il y a lieu de voir comment intégrer le changement climatique dans les différents outils de planification. Aujourd'hui, nous avons le PNSD, le Programme National de Stratégie de Développement, qui est un outil central de planification. Je pense que l'axe central de cet instrument devrait intégrer cette question du changement climatique plutôt qu'être sectorisé dans le domaine de l'environnement.
Vos recommandations aux décideurs?
Les différents rapports, que ce soit du groupe GIEC, et les différents rapports internationaux démontrent que les prochaines décennies seront très décisives et ça va apporter de profonds bouleversements à la fois géopolitiques et économiques. Il revient maintenant à chaque État de développer les capacités d'adaptation. Notre pays se trouve être à la fois un pays solution, mais un pays très vulnérable au changement climatique. Au fur et à mesure que le changement climatique va continuer à s'accélérer, ça suppose que notre capacité de résilience va de plus en plus être impactée. Il y a lieu que l'État se fixe des objectifs d'adaptation pour développer les capacités d'autonomie stratégique. Le ministère des Affaires étrangères, qui est la clé, la plaque tournante de notre appareil diplomatique, soit amplement associé dans ces réflexions et qu'une réforme organique soit intégrée dans ce ministère pour créer en réalité des sections liées au changement climatique. Cela aura comme avantage de disposer au niveau du ministère des Affaires étrangères des compétences, que ce soit au niveau de la centrale, mais aussi au niveau de réseaux diplomatiques, qui sauront de plus en plus défendre nos positions, nos intérêts à l'étranger face à des différentes négociations qui se passent au niveau international sur les questions du climat.
Monsieur Claude Boyo-Itaka, je vous remercie.
Je vous remercie.
C'était notre invité Claude Boyo-Itaka, docteur en relations internationales à l'Université de Kinshasa et expert en diplomatie climatique, qui s'entretenait avec notre collègue Joël Ouéti. Voilà qui met fin à ce journal Parler du matin préparé pour vous par Richard Général Kamunga et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.